France Inter. .fr. La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
La grande barrière de corail souffre plus encore que ce que l'on pensait. C'est notre une de la science aujourd'hui.
À travers l'eau limpide, le récif de corail ressemble à une île engloutie. Les plongeurs descendent le long de cette grande muraille, un monument colossal cimenté par des végétaux. Les récifs qui composent la grande barrière sont nombreux, mais tous dissemblables. Ils hébergent des myriades de poissons.
Le commandant Cousteau, qui s'émerveillait dans un documentaire de 1988 devant la grande barrière de corail, et dans un article paru en fin de semaine dernière, un groupe de chercheurs mené par Terry Hughes décrit l'impact de la vague de chaleur de 2016 sur les coraux australiens. Blanchiment massif, mortalité importante et modification durable des atolls. Les 3600 récifs qui constituent la grande barrière sont en train de changer de visage. Et pour longtemps, Axel Villard, on en discute avec notre invité sur place.
Oui, Daniel, nous sommes en direct avec Mathieu Mongin depuis l'État de Tasmanie en Australie. Bonjour à vous.
Et bonjour à vous tous.
Vous êtes chercheur pour le CIRO, c'est l'organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique. Vous travaillez à la modélisation des récifs. Avec nous en studio, Hervé Kempf pour le magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Mathieu Mongin, comment est-ce que vous avez réagi en lisant ces résultats dans la revue Nature qui ne sont pas les vôtres, hein, c'est des collègues à vous?
Non, ce ne sont pas les autres, c'est les collègues, moi, effectivement. Pour moi, ce n'est pas une surprise, c'est juste, on va dire, une mauvaise surprise, entre guillemets, pour la majorité des gens. C'est un petit peu ce dont on attendait, en fait. On savait qu'en 2016, ça avait été un blanchissement important. Là, on a un petit peu la confirmation de l'hécatombe, et oui, c'est une mauvaise nouvelle.
Alors, pourquoi 2016? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016, précisément, pour que cette vague de chaleur soit si dévastatrice?
Alors en 2016, ce qui a commencé, c'est qu'il a commencé à faire chaud tôt. Il a commencé à faire chaud tôt en hiver, donc au mois d'août en Australie. Et ça a duré autant tout le printemps et le long de l'été. Et ce qui fait que les coraux étaient exposés à une quantité de chaleur bien plus importante que ce qu'ils ont eu d'habitude. Donc c'était pas juste là. Le fait qu'il a fait chaud en été, il a aussi fait chaud au printemps et en hiver. Et c'est donc pour ça qu'on a eu un blanchiment important et une mortalité maintenant qui a été observée 2 ans après.
Alors combien de récifs ont disparu après cette vague?
Alors, combien ont disparu? C'est une question un petit peu... Il y a un chiffre, je vais vous donner un chiffre, c'est 40%, mais c'est un chiffre un petit peu compliqué à estimer, parce que on sait la grande barrière est grande, il y a 3000 riffs, c'est un système assez compliqué et dense. 40% est un chiffre, il y en a beaucoup dans le nord, on va dire, et moins dans le sud.
Alors, Terry Hughes a surtout quantifié le blanchiment ou le blanchissement, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit. Là, les chiffres sont plus sûrs, il parle de 70% des récifs qui sont touchés, c'est ça?
Donc le blanchiment, c'est quand la petite algue qui est à l'intérieur du coraux s'en va, en fait. C'est ce qu'on appelle le blanchiment, donc le corail devient blanc. Mais cette algue peut revenir. Donc, quand elle revient, le corail retrouve sa couleur et retrouve sa couleur normale.
Donc du corail blanc, ça n'est pas du corail condamné. C'est réversible, c'est ce que vous nous dites.
C'est réversible. Après, combien de temps ça prend? C'est un petit peu la question de ce que montre Terry, c'est que si ça prend quelques semaines, quelques mois, l'algue peut revenir, le corail peut retrouver sa couleur, il ne meurt pas. C'est pas le cas de tous, il y en a de nombreux, c'est ce qu'il montre dans son étude, que de nombreux, l'algue ne revient pas, et donc les coraux meurent.
Est-ce que l'étude permet de dire quand l'algue revient et quand elle ne revient pas, de détailler un peu les conditions?
Alors que c'est intéressant, c'est qu'à l'échelle d'un riff, si on oublie un petit peu la grande barrière, bon, si on va à l'échelle d'un riff, c'est un atoll de corail, s'il vous plaît, de quelques centaines ou de kilomètres de diamètre, si 25% des coraux dans cet atoll ont été blanchis, dans ce cas-là, c'est une limite à partir duquel on sait qu'il n'y a plus assez d'algues, petites algues, petites zooxanthellies, pour essayer de ressemer un petit peu l'atoll lui-même. Donc il n'y a plus assez pour ressemer, donc dans ce cas-là, l'atoll est un petit peu condamné. Donc c'est ce chiffre de 25% de blanchiment que Terry montre dans son étude.
Hervé Kempf.
Un pourcentage important.
Quelles conséquences aura ou aurait la disparition du corail ou d'une grande partie du corail?
Alors, le corail ne disparaîtra pas, et ce qui est assez important dans l'étude de Terry, c'est que la grande barrière va exister, continuera à exister, elle n'existera plus dans l'état où on la connaît, ce n'est plus la grande barrière qu'on a connue, qu'on connaît aujourd'hui. Les coraux existeront toujours, la biologie est assez résiliente, il y a d'autres coraux qui sont plus tolérants à la chaleur, qui vont prendre place. Le problème, c'est que ce sera des coraux moins diversifiés, il y aura moins de biodiversité, ce ne sont pas des coraux qui ont des branches, ils seront plus plats, ils amèneront moins de poissons, moins d'autres, moins d'écosystèmes. L'écosystème va perdre beaucoup en biodiversité. C'est cela dont on a peur un petit peu.
Est-ce qu'ils auront aussi moins un attrait moindre esthétiquement, c'est-à-dire que le tourisme pourrait en souffrir, par exemple?
Alors esthétiquement, oui, c'est bon, quand on va sur des atolls qui sont plats, un petit peu marrons, c'est moins excitant pour le touriste que pour nous. Nous, en tant que scientifiques, on est excités par tous les types de coraux. Mais oui, il n'y a pas, c'est surtout pas seulement les coraux, c'est surtout tous les poissons et toute l'activité qui va autour de l'atoll et tout de l'écosystème corallien, et où on va perdre un petit peu toute cette biodiversité qu'on connaît bien et qu'on adore.
Alors vous dites on va perdre. Est-ce que ça veut dire que c'est complètement inéluctable ou est-ce qu'on peut encore agir? Est-ce qu'on peut encore sauver cette barrière de corail ou en moins une partie?
Alors une partie oui, c'est celle dont on travaille en ce moment. On sait, les scientifiques le savent depuis un petit bout de temps, que la biodiversité à l'échelle de la Grande Barrière, dans 3000 km, c'est condamné. Mais on peut maintenant essayer de limiter les changements, l'impact des autres changements qui arrivent. Donc là on ne peut pas grand-chose pour la température, nous à notre échelle. Mais on peut faire d'autres problèmes qui vont faire face. Donc les cyclones, on ne peut pas faire grand chose non plus, mais il y a des techniques de geoengineering où on peut essayer de sauver un reef plutôt que l'autre, un qui est un peu plus qu'on peut sauver en fait.
Hervé,
est-ce que vous pouvez les décrire justement ces techniques de géo-ingénierie qui sont à l'étude?
Mathieu Mongin.
Oui, alors les étudiants, on a pas des idées un petit peu intéressantes. On pense par exemple mettre des biofilms au-dessus d'un atoll corail, un petit peu comme leur mettre de la crème solaire pour éviter qu'ils se fassent endommager par la lumière, qui est aussi une des caractéristiques du blanchiment des coraux, et aussi les protéger par exemple des effluents de certaines rivières. Donc si on limite un petit peu la pollution dans certaines rivières, on peut effectivement essayer de protéger certains récifs qui sont plus proches de la côte. On peut aussi limiter le tourisme, limiter la pêche, limiter les bateaux qui passent. Il y a plein de petites techniques à l'échelle de chaque rift qui est en place. Mais ça va prendre un petit peu de temps, ouais, parce qu'il y a beaucoup de rifts.
Mais il y a encore des choses à faire. Merci Mathieu Mongin. Vous étiez donc en direct depuis Hobart, en Tasmanie. On vous souhaite une bonne soirée, puisque pour vous, il est 22h, 22h15 plus exactement. Hervé Kempf, que peut-on lire cette semaine en une de reporter.net?
Eh bien aujourd'hui, on s'intéresse aux migrations et on s'intéresse aussi à la zone humide de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, un entretien très intéressant avec l'historien des sciences Guillaume Carnino, qui explique que les sciences, dit-il, la science est née pour répondre aux besoins de l'industrie. Dès le 17e, 18e siècle, les scientifiques avaient déjà des préoccupations scientifiques et technologiques. Et c'est aussi ces préoccupations qui ont permis le développement de la science.
Alors tout cela est à retrouver sur votre site reporter.net. Et Axel Villard, on se retrouve demain pour une nouvelle une.
À demain, Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'apnée avec ou sans gêne. En Indonésie, les pêcheurs de la tribu Bajo passent en moyenne 60% de leur journée sous l'eau et ont développé de grands talents pour retenir leur souffle. En étudiant leur ADN, une chercheuse danoise montre que ces étonnantes capacités pourraient être inscrites dans leur gène. Un gène en particulier qui influence la taille de la rate pourrait être en cause. En effet, en cas d'apnée prolongée, la contraction de la rate permet de réinjecter de grandes quantités de globules rouges oxygénés dans le sang. La grande évasion version simiesque. Le week-end dernier, trois babouins de l'Institut de recherche biomédicale du Texas ont réussi à s'échapper de leur enclos en coopérant. Ils se sont servis d'un grand baril de plastique bleu comme échelle pour sauter la barrière de leur enclos. Les membres du centre ne s'expliquent pas vraiment comment les fuyards se sont procurés ce tonneau. Quoi qu'il en soit, tous ont été recapturés, deux dans un arbre à proximité et le dernier plus téméraire sur la grande route à quelques centaines de mètres du complexe qui compte plus de 2500 animaux. Et pour terminer, une étude qui relie les terrains allergiques et les troubles psychiatriques. C'est une large enquête taïwanaise menée sur 15 ans et plus de 150 000 dossiers médicaux qui fait ce nouveau lien statistique. Les personnes souffrant d'asthme ou de rhinite allergique auraient deux fois plus de chances de développer des troubles psychiatriques que les autres sur la même période. Bien que la prudence soit de mise face à ces résultats et qu'il faille plus de travaux pour expliquer et même affiner ce lien, d'autres recherches avaient par le passé fait ce même constat pour l'eczéma allergique.